simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Coligarigues, Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
24. Nous vous diffusons un interview avec le syndicat des gardiens et gardiennes de troupeaux, que nous avons réalisé samedi 14 décembre dernier. Dans cette interview, nous avons pu revenir sur les différentes fractures idéologiques qui peuvent exister au sein du monde de l'agriculture, et notamment lorsqu'il s'agit de participer à des mobilisations réunissant exploitants agricoles et ouvriers agricoles. Ainsi, partant de leur point de vue, nous avons pu revenir sur les différentes mobilisations qui ont pu avoir lieu autour du Mercosur, mais surtout sur le travail politique qui leur semble nécessaire de mener afin de construire un rapport de force qui nous permette de réfléchir autrement aux logiques de production, notamment agricoles. Bonne écoute.
Tout d'abord, bonjour, merci de répondre à notre sollicitation. Je voulais commencer par vous demander si vous pouviez vous présenter et présenter votre organisation, s'il vous plaît.
Moi, Benoît, membre du syndicat des gardiens de troupeaux en Ariège.
Donc Charlotte, gardienne de troupeaux et membre du syndicat d'Ariège aussi, du syndicat de gardiens de troupeaux d'Ariège depuis 2021.
Et Damien, au syndicat des gardiens de troupeaux d'Ariège.
Voilà. Le syndicat des gardiens de troupeaux, c'est un syndicat de salariés, de bergers, de vachers, de chevriers, qui s'est monté, en Ariège en tout cas, qui s'est monté en 2019. Et voilà, et qui a pour fonction de défendre les salariés face au patronat agricole en général, et en tout cas de reposer les bonnes lignes de fracture au sein de la production capitaliste rurale. Et surtout de réussir à créer du lien, recréer du lien entre les salariés à l'intérieur des zones rurales, en fait. C'est un truc qui manque terriblement. Le lien ici, il s'opère sur des choses un peu plus aléatoires et un peu moins matérialistes que la fracture patron-employé, quoi. Et c'est une des missions principales qu'on a, notamment aujourd'hui. Voilà.
Nous, on a eu l'occasion de rencontrer votre syndicat l'année dernière, lorsque vous aviez organisé une rencontre dans laquelle on a pu réaliser des enregistrements, que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur notre site internet pour tous les auditeurs. Et il se trouve que, avant de parler de l'actualité de cette année, on avait envie de revenir avec vous sur votre peut-être bilan du mouvement qui s'était opéré l'année dernière et des raisons qui avaient justifié de votre participation ou de votre non-participation à ce mouvement.
Oui, mais donc ce mouvement, nous, très clairement, on n'y a pas participé et on a affirmé qu'on n'y participerait en aucun cas. C'est un mouvement qui, justement, met bien en perspective le fait que la lutte des classes, elle existe bien en agriculture, contrairement à ce qu'on pourrait penser, notamment ce qui est véhiculé par la presse ou même par certains militants de gauche qui ont tendance à considérer l'agriculture comme un milieu un peu isolé du capitalisme, enfin de la production capitaliste, ou du moins qui séparerait d'un côté les méchants patrons de la FNSEA et les gentils patrons, enfin les gentils exploitants de la Confédération paysanne, qui ne sont même pas toujours considérés comme des paysans. Le fait est que les revendications portaient surtout donc, sur le niveau de vie des agriculteurs et beaucoup les normes environnementales et sociales. Et ces exploitants, comme en tant qu'exploitants, ils ont réussi à obtenir un allègement de toutes ces normes donc sociales et environnementales, qui est forcément délétère pour le salariat agricole, quoi. Donc c'est ce qui justifie qu'en tant que syndicat de salariés, ça n'avait aucun sens qu'on se positionne aux côtés de nos exploiteurs, en fait.
D'une certaine manière, en fait, finalement, c'était peut-être une lutte entre certains paysans, parce qu'il y avait peut-être eu des dissensions entre la Confédération paysanne ou la FNSEA, mais qui étaient des problématiques, en fait, qui nous ne concernaient absolument pas. Il y avait, d'une certaine manière, peut-être une espèce de lutte des classes, mais entre le petit capitaliste et le grand capitaliste, mais c'était une lutte entre des formes de capitalisme différents. Et là-dedans... Si on avait eu ne serait-ce qu'un petit mot pour des gens qui, même à la limite, je ne sais pas, des patrons qui viennent se battre pour nos conditions de travail et nos salaires, à la limite, on aurait pu essayer au moins peut-être d'essayer de se rapprocher, pas forcément de faire quelque chose ensemble, mais de se rapprocher un petit peu, mais ce n'est même pas le cas. Même des gens comme des gens qui se considèrent des patrons de gauche, on ne les a jamais entendus dire un seul mot sur le fait qu'ils étaient bien contents, en fait, de payer moins de charges sociales. Et d'arrêter de verser une part de salaire indirect qui nous est due, quoi. Voilà.
Et juste si, par rapport au bilan de ce mouvement-là, ce qu'on peut dire, c'est que les exploitants ont quand même réussi à obtenir un certain nombre, entre guillemets, d'avancées, mais d'avancées pour eux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des avancées pour le salarié agricole, clairement, avec notamment le fait d'avoir obtenu d'être reconnu secteur en tension, ce qui va justifier qu'on facilite leur recours à des travailleurs étrangers toujours plus précarisés. On sait déjà que la situation des travailleurs détachés était déjà désastreuse. Aujourd'hui, ce sera encore plus facile d'aller chercher un salariat toujours plus précaire pour presser toujours plus le citron des travailleurs, quoi. Et par ailleurs, ils bénéficient aussi donc d'un certain nombre de... Enfin, on appelle ça dans la langue de bois néo-managériale capitaliste, là, on appelle ça des simplifications, mais les simplifications, en fait, c'est surtout des allègements de... Enfin, oui, le but, c'est de simplifier les démarches administratives pour les exploitants, mais c'est aussi, du coup, beaucoup moins de protection pour les salariés qui signent déjà des contrats ultra précaires dans ce secteur-là. Et on sait très bien ce que provoque la simplification, quoi. C'est-à-dire que ça va être des contrats encore plus précaires, quoi.
Pour rajouter une petite donnée, c'est que il faudrait arrêter d'utiliser le terme de mouvement d'agriculteurs. C'est un mouvement d'exploitants agricoles. Et il faut comprendre que dans le monde agricole, il y a plusieurs positions vis-à-vis des moyens de production. Il y a ceux qui les possèdent, il y a ceux qui offrent leur force de travail pour pouvoir vivre dans ce monde-là. Et le mouvement qu'on aperçoit aujourd'hui, c'est un mouvement d'exploitants agricoles, de propriétaires des moyens de production, et en aucun cas les salariés peuvent s'associer à ce type de mouvement-là. Et le deuxième élément, c'est que ce qui est encore plus problématique, en fait, du point de vue médiatique et du point de vue des projecteurs qui éclairent cette situation-là, c'est que en termes d'effectifs, aujourd'hui, dans le monde agricole, il y a peut-être presque 1 million de salariés dans l'agriculture. C'est des chiffres, donc grosso modo, je donne des chiffres de 2016. Si on prend à la même période le nombre d'exploitants agricoles, c'est deux fois moins. Et donc ce dont on s'aperçoit régulièrement, c'est qu'on parle beaucoup des exploitants agricoles. Dès que ça bouge un petit peu dans le monde agricole, on ne parle que d'eux. Et il n'y a que eux qui sont visibilisés, et tout salarié agricole qui est deux fois plus nombreux, lui, on l'entend pas, quoi. Voilà.
Vous avez évoqué la question des travailleurs déplacés. Vous êtes gardien et gardienne de troupeaux. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu une image de ce que c'est que le monde des salariés agricoles, alors ?
La convention collective, en tout cas pour ce qui nous concerne, c'est celle des ouvriers agricoles et CUMA. Je ne sais plus si c'est l'intitulé exact, mais en gros, c'est ça. Après, effectivement, il y a un travail saisonnier qui est très important en agriculture et qui est plutôt en augmentation. C'est-à-dire que le salariat agricole est de plus en plus précaire. Alors, sa situation n'a jamais été brillante, Mais il y a une époque où il y avait quand même un peu plus de contrats durables et de CDI. Bon, aujourd'hui, les contrats les plus fréquents, c'est le CDD saisonnier, donc qui a la particularité d'être renouvelable à l'infini et qui dispense de verser une prime de précarité. Donc, en fait, t'es précaire, mais t'as pas de prime de précarité. Les contrats TESA, TESA, c'est donc titre, emploi, service. C'est des contrats qui sont normalement limités à une période de 3 mois, je crois. Comme le CDD saisonnier, en tout cas en agriculture, il me semble que c'est des contrats qui exonèrent en quasi-totalité, si ce n'est en totalité, le patron de cotisations sociales, quoi. Donc, on est précaire à la fois parce que nos salaires sont généralement pas super. On est très, très largement payé au SMIC. Et en plus de ça, les salaires indirects qu'on devrait pouvoir percevoir sont aussi entamés, quoi, à travers cette absence de versement de cotisations sociales. Et à ce titre-là, d'ailleurs, j'ai un peu envie de rappeler que la Confédération paysanne, qui porte beaucoup de revendications qui se prétendent un peu sociales, est exonérée de cotisations sociales au même titre que le reste du patronat agricole, et qu'on ne les entend pas beaucoup protester contre ces exonérations-là, quoi. Voilà.
En fait, dans les effectifs de salariés agricoles, ce que tu vas avoir, ce qui va représenter la grande majorité des effectifs, ce sont les saisonniers. À côté de ça, tu as des gens qui sont embauchés en CDI, par exemple les ouvriers agricoles dans les exploitations, ils sont embauchés en CDI. Tu vas avoir des travailleurs détachés qui prennent de plus en plus de place depuis que le secteur est considéré en tension. Et puis, tu as t'as également, de manière un petit peu plus résiduelle, des apprentis. On compte aussi tous les salariés qui travaillent dans les entreprises de travaux agricoles, par exemple.
Et juste pour ajouter, beaucoup de ce qu'on ne peut pas dire et qu'on ne peut pas chiffrer, mais énormément de sans-papiers, notamment dans les vignes ou dans les fruitiers.
Voilà. Là, ce que tu décris, c'est clair pour les secteurs où il y a besoin d'énormément de main-d'œuvre au moment des récoltes. Quoi. Il y a, par exemple, c'est la récolte de Paimpol, là, les cocos de Paimpol, ça c'est typique. La grande majorité du salariat là-dedans, c'est des travailleurs détachés qu'on fait venir. Il me semble qu'il y avait des cas d'entreprises espagnoles, d'ailleurs, qui se sont fait choper par la justice il n'y a pas longtemps. Et il me semble que la CGT a été partie civile là-dedans, qui faisait venir des travailleurs d'Équateur pour venir ramasser les cocos de Paimpol. Bref. Mais nous-mêmes, chez les gardiens de troupeaux, alors je ne sais pas si dans ce cadre-là, si on considérait comme travailleurs détachés, et que c'est pour ça qu'ils viennent bosser, mais dans la plaine de l'Acro, dans les Alpes du Sud, on commence à avoir beaucoup de travailleurs de bergers roumains qui bossent pour de très très gros éleveurs de la plaine de l'Acro.
Sur la question un peu sociologique du travail, il faut quand même dire un truc, c'est que c'est quand même un boulot où le prolétariat, enfin le salariat, donc le prolétariat, est relativement isolé. C'est-à-dire qu'on se retrouve souvent à travailler seul avec un patron qui va faire un peu office de collègue de travail, entre guillemets, ou en tout cas qui va se prendre soit pour ton collègue de travail parce qu'il refuse d'être un patron, refuse symboliquement d'être un patron, soit qui va se prendre un peu même pour ton père, hein, notamment chez les apprentis ou ce genre de trucs. Du coup, il y a un isolement de dingue et en fait, on se retrouve souvent à travailler seul à seul avec un patron, voire des fois, on se retrouve, et c'est le cas pour notamment des gardiens de troupeau, mais aussi pour des gens qui bossent dans les CUMA ou ce genre de choses, des gens qui travaillent avec plusieurs patrons, c'est-à-dire un ouvrier pour plusieurs patrons, quoi. Ce qui permet en plus de complètement flouter le rapport d'exploitation et de domination, vu que tu es tout seul parmi plein de gens qui sont tes patrons, et aussi tes interlocuteurs directs, et des fois tes voisins, ou même des fois des gens qui te logent, presque chez eux ou dans une annexe de leur ferme, parce que de toute façon, il faut se déplacer très loin pour bosser, ou dans une caravane sur leur ferme, et bah, du coup, on se retrouve complètement dissous, en fait. Les salariés agricoles, souvent, se retrouvent dissous, en fait, dans une logique patronale et dans un réseau patronal où eux, entre eux, ont un réseau qui est très constitué. Et nous, par contre, pour réussir à définir notre réseau de salariés et réussir à se battre communément avec d'autres gens qui nous ressemblent en termes de conditions matérielles, quoi, d'existence, et bah, ça demande un peu plus de travail. Et c'est assez compliqué. Et c'est aussi le rôle de notre syndicat là, principalement, hein. Ce qui rajoute énormément à la précarité, c'est-à-dire qu'il y a la précarité, mais en plus il y a l'impossibilité de pouvoir la nommer parce que du coup, on est avec des gens qui sont nos patrons et en fait, on est témoins aussi de leur galère parce que c'est des patrons, ils ont moins de galères que nous, ils sont bien installés, ils ont de la thune, mais en fait, ils sont comme tout le monde, ils ont des galères. Sauf qu'en fait, ça crée une empathie plus vers eux que vers nos collègues de travail qu'on ne connaît pas, en fait. Et que du coup, ça demande un peu de boulot et un peu de travail d'organisation et de syndicalisme et politique pour réussir à défaire ces choses-là. Voilà.
Et pour continuer un peu dans la lignée de ce que disait Benoît, du point de vue un peu sociologique, globalement, on est dans une société où le travail n'a plus beaucoup de sens parce qu'il se rapporte à une activité qui est surtout liée à la génération de profit pour des gens qui nous sont dont on est assez éloigné pour produire des choses qui n'ont pas toujours beaucoup de sens. Et de fait, l'agriculture, le rapport à ce qu'on produit est quand même beaucoup plus palpable. Donc, il y a un peu ce côté aussi où quand tu travailles en agriculture, tu t'attaches au sens, tu trouves quand même dans une certaine mesure, hein, et avec beaucoup de guillemets, une certaine satisfaction, en tout cas dans le lien à ce que tu produis. Alors, il y a des travailleurs très précaires, mais il y a aussi beaucoup, pas forcément une majorité, mais nous, chez les gardiens de troupeaux, par exemple, il y a beaucoup de personnes en reconversion et qui accordent une grande importance à une forme de rétribution symbolique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément valorisés par leur employeur, mais ils se disent, bon, voilà, je fais un truc qui a du sens, je fais un truc qui me plaît, et c'est pas grave si je dors dans ma bagnole, si je n'ai pas d'eau potable, parce que je fais quelque chose qui me plaît. Et donc, on a quelquefois du mal, même si globalement, le nombre de syndiqués progresse tous les ans, donc globalement, ça va plutôt dans le bon sens, mais il y a d'une part des personnes qui ne sont pas forcément issues d'un milieu depuis lequel ils avaient beaucoup de besoins financiers, qui se complètent dans le fait de faire quelque chose qu'ils aiment, et d'autre part des personnes qui ont déjà subi une telle violence sur le marché du travail et des emplois déjà tellement précaires et tellement peu valorisants, qu'ils en arrivent à se dire, bah, pareil, c'est pas grave si je travaille dans des conditions de merde, au moins j'ai l'impression d'avoir une place. Quand je cherche du travail, j'en trouve. Mon patron, il me dit que ce que je fais, enfin, avec modération, mais ça peut arriver qu'il me dise que ce que je fais, c'est bien, du moins dans la mesure où j'accepte un peu tout et n'importe quoi et que je travaille comme un fou, quoi. Et du coup, y a tout ça quoi, qui s'articule et qui font qu'on n'arrive pas forcément à toucher tout le monde. Quoi. Voilà, y a des personnes qui ont le sentiment qu'on se complaît dans une certaine agressivité qui serait un peu gratuite à l'égard de patrons qui sont quand même des pauvres gens qui ne peuvent pas mieux faire alors qu'ils nous ont offert des opportunités formidables de nous épanouir dans la vie. Quoi. Sauf que dans quelle mesure un travail est épanouissant quand tu n'as pas la main sur son organisation, quand il n'est pas rémunéré à sa juste valeur, voilà, c'est un peu ces questions-là qui se posent.
Et vous avez à faire en sorte de visibiliser en fait cette question du salariat agricole.
Oui, c'est une des premières missions qu'on se donne, hein, c'est déjà et qui marche un petit peu hein, en réalité, c'est de plus en plus, bon, voilà, ça fonctionne de plus en plus parce que de plus en plus de gens font ce constat-là. Mais en plus, par rapport à toutes ces histoires de différence entre travailleurs déplacés, travailleurs sans papier, travailleurs précaires, toutes les sortes, et la difficulté qu'on a à fournir par exemple des chiffres un petit peu carrés sur ces trucs-là, en fait, c'est le statut de salarié agricole ou le statut de saisonnier ou le statut de. En fait, le statut de gardien de troupeau, par exemple, c'est nous, on se bat pour qu'il existe, déjà qu'il soit reconnu, entre guillemets, légalement, avec des trucs un petit peu carrés. Parce que, en fait, le problème, c'est qu'il y a même, quand on demande des chiffres à des organisations un peu plus officielles, mais ça ne serait-ce que sur les accidents de travail ou des choses comme ça, par exemple, aujourd'hui, les accidents de travail dans l'agriculture, on ne prend pas en compte les accidents de travail des ouvriers ou des saisonniers, on prend les accidents de travail qu'il y a dans l'agriculture en général. Pas par branche, pas par truc, pas par rien. Parce qu'en fait, il y a un discours. Qui est un discours majoritaire, qui est hégémonique, qui dit voilà, l'agriculture, c'est quelque chose une et indivisible. Et que, du coup, en fait, c'est un truc que défendent les patrons agricoles parce qu'ils veulent continuer à ce qu'on considère comme les prolos, en gros, les damnés de la terre, quoi, les prolos de la campagne. Et que, du coup, en fait, ils foutent complètement ce rapport-là et ça amène, cette hégémonie-là, elle mène au fait que nous, on se bat aussi pour exister, ne serait-ce que pour pouvoir créer des statuts. Et pouvoir avoir des vrais chiffres sur ce qui nous concerne et tout. Parce que nous, quand on le fait juste entre nous, à l'échelle d'un département, qu'on essaie de recenser les accidents de travail sur une saison ou sur un truc ou machin, mais en fait, nous, on en plafonne les problèmes, les trucs, des marins pêcheurs, quoi. C'est-à-dire le nombre de gens qui se font des fractures, qui se pètent la gueule, qui se font mettre, mais en tant que salarié isolé, ça casse tout. Sauf qu'en fait, c'est pas des chiffres officiels, c'est des trucs qu'on n'arrive pas à voir. En fait, on a beaucoup de mal à pouvoir demander ça à des administrations publiques à partir du moment où elles-mêmes, elles ont un discours qui finalement est un petit peu idéologique et qui est celui de considérer l'agriculture comme une et indivisible avec aucune ligne de fracture en son sein, quoi. Voilà. Et bon, c'est un travail qu'on essaye de faire, mais c'est un travail long et fastidieux.
Il y a une typologie du patronat agricole. Pour faire simple, d'un côté, tu as le patronat réactionnaire et libéral, type FNSEA ou coordination rurale, qui a intérêt à invisibiliser le salariat pour faire son profit. Et de l'autre côté, tu as un autre patronat agricole qui est un patronat agricole qui se dit... qui se dit de gauche, comme la Confédération paysanne, par exemple, mais on va mettre là-dedans à peu près tous les collectifs qui vont parler. Alors, dès qu'on te parle de collectifs paysans ou de collectifs de travailleurs paysans, derrière ce que tu as, c'est des petits exploitants et des petits propriétaires. Et donc, ceux-là aussi, ils participent à l'invisibilisation des salariés agricoles parce que leur intérêt, leurs enjeux, c'est un enjeu de concurrence avec des gros exploitants. Ils déplacent le curseur de la conflictualité entre petits exploitants et gros exploitants. Et nous, en fait, on n'existe pas là-dedans. C'est-à-dire que la conflictualité entre ceux qui possèdent les moyens de production et ceux qui ne les possèdent pas, ça n'existe pas pour eux. Et du coup, ils ont vachement intérêt dans leur discours à nous invisibiliser. Eux-mêmes, ils ne se considèrent même pas comme exploitants agricoles. Ils veulent se dire paysans. Il y a la création de cette notion un petit peu hors sol, là, de cet imaginaire, qui en fait a pour but, enfin, je pense pas que ce soit un but conscient pour tout le monde, mais en tout cas, le résultat, c'est que le salariat agricole, il n'existe plus, quoi. On est obligé, nous, de le faire réémerger, de le faire réexister, et ben, en leur rentrant un petit peu dans la gueule de temps en temps.
Il y a quelque chose de politique, il y a beaucoup de petits patrons de gauche dans l'agriculture, de plus en plus d'ailleurs, des gens qui n'aiment pas forcément de ce milieu-là et qui peut-être presque à la base étaient déjà sur des trucs relativement gauchistes et qui admettent la question de la lutte des classes et tout. Mais de fait, eux, ils continuent à garder ce rapport à la lutte des classes et ils veulent continuer à s'inscrire dedans. Mais de fait, vu qu'ils accèdent à la propriété, en fait, ils sont toujours dans une lutte des classes. Sauf que les deux classes qui s'opposent, c'est la petite bourgeoisie et la grande bourgeoisie. Parce que vu qu'ils veulent continuer à être dans un discours combatif et un petit peu de gauche, ils veulent être dans la lutte des classes, mais par contre, ils ne font plus partie de la classe prolétaire. Ils font partie de la classe de la petite bourgeoisie. Et du coup, ça... À ce moment-là, bon, ils sont bien contents d'arriver dans un milieu où, du coup, le prolétariat n'est pas constitué suffisamment fort pour pouvoir balancer le truc. Et en fait, nous, dès qu'on va, par exemple, essayer de dire même à ces petits patrons qui souvent sont en plus nos potes, sont des gens qui avant étaient derrière, puis qui après s'installent, les autres machins, et accèdent à la petite propriété, quand on va essayer d'exister avec eux, ils vont nous dire des trucs. Soit on est trop violent parce que du coup, on ne reconnaît pas le fait qu'eux aussi galèrent, alors qu'en plus, on reconnaît qu'ils galèrent. Par contre, eux, ils ne reconnaissent pas qu'ils nous exploitent. Ça, c'est vraiment un truc qui est compliqué. Ils vont nous dire un truc qu'ils nous disent souvent, et on en parlait il n'y a pas longtemps, le truc de dire, surtout, vous ne trompez pas de combat. Les grands méchants, c'est vraiment les grands, grands méchants. En fait, le monde rural, aujourd'hui, il n'est pas ce que Marx a décrit il y a longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde capitaliste, il a complètement... il est calqué partout pareil, grosso modo, et l'agriculture, c'est la même chose. Et c'est pour ça, en fait... qu'il y a encore un floutage de la part de petits patrons de gauche, parce qu'en fait, ils sont quand même dans ce truc de dire les petits contre les grands, sauf qu'en fait, ils oublient de dire que eux, ils sont pas les petits, quoi. C'est juste ça.
ديال الليل بالصغر يمحي وزيدوني والتمر عمري ما نسيت غزل الغزلة أنو السحر واسم الطليق في الغزر بعد الأيام والشمر
de vous diffuser l'interview réalisée avec le syndicat des gardiens et gardiennes de troupes.
J'aurais besoin d'un petit éclairage de votre part sur les enjeux en fait déjà qui sont mis en avant par cette signature du Mercosur.
Moi pour ma part je vais juste faire une réponse marxiste sur le Mercosur quoi. Le Mercosur c'est des traités commerciaux qui ont été négociés par la grande bourgeoisie agricole européenne et la grande bourgeoisie agricole en Amérique du Sud pour établir des échanges et pour faire du profit international quoi. Ça va pas plus loin que ça et pour nous la réalité pour les salariés agricoles en fait dans les traités qui sont signés au sein du Mercosur il y a rien sur le traitement social de la main d'œuvre dans tout ça quoi. Et la question c'est pour ça que la question du Mercosur nous en tant que salariés d'un point de vue de la structure syndicale c'est pas son affaire le Mercosur enfin ça c'est mon opinion. Après, d'un point de vue individuel, tu peux regretter, mais ce que tu vas regretter, en fait, c'est les bases du libre-échange et de la mondialisation, quoi. Mais et ce que met en place le capitalisme, quoi. Sachant que là-dessus, il y a quand même un jeu de dupes qui est fait par la FNSEA de ce côté-là, parce que c'est pas uniquement des produits qui vont arriver en Europe, c'est des produits aussi qui vont partir en Amérique du Sud, quoi. Donc, je veux dire, il y a des gagnants dans l'histoire du Mercosur et il y a des gagnants européens, quoi. Donc, c'est des trucs qui nous dépassent. Mais effectivement, pour des petits exploitants et des petits agriculteurs, et encore plus les petits agriculteurs et exploitants de gauche qui, eux, sont sur une autre échelle, eux, d'un point de vue de la concurrence avec les gros, dans ce curseur-là de la conflictualité, c'est-à-dire cette concurrence entre les gros et les petits, ça, c'est leur affaire et c'est leur intérêt, mais je ne pense pas que les salariés aient beaucoup d'intérêt à suivre ce type de mouvement-là.
Du coup, le Mercosur, qu'est-ce que c'est ? Le Mercosur, il existe depuis 20 ans, même plus un petit peu. Donc, en fait, grosso modo, c'est juste un traité de libre-échange en fait, qui, aujourd'hui, il est axé sur le fait de baisser encore plus les droits de douane. Ça s'inscrit dans un truc de guerre économique, de guerre industrielle un petit peu. Mais en fait, toujours pareil, hein, la guerre, si tu veux, ça ne sert jamais au prolo. Quoi. La guerre, c'est un peu les unions sacrées, les blocs les uns contre les autres, et on oublie les tiraillements internes et on oublie la lutte des classes en général quand c'est la guerre. Et c'est un peu ça qui se passe pour nous, et c'est pour ça qu'on ne veut pas totalement y aller. Enfin, qu'on ne veut pas y aller du tout d'ailleurs. Mais en gros, c'est un truc d'abaissement des droits de douane. C'est-à-dire que du coup, la possibilité pour des gens qui produisent à l'autre bout du monde avec des coûts bien inférieurs de la viande peuvent inonder le marché européen encore plus que ce qu'il ne l'est, parce qu'en fait, en réalité, c'est pas d'un coup là le Mercosur arrive et il y a l'ouverture des frontières. C'est un processus très très long et ça fait longtemps que ça existe. Là juste c'est un abaissement supplémentaire des droits de douane. Et en fait en contrepartie, si tu veux, l'Europe elle qui est plus sur l'Europe dans son ensemble, et pas la France pour le coup, l'Europe dans son ensemble elle est plus sur une puissance on va dire industrielle ou de services. Et en fait elle a intérêt aussi pour exporter son industrie en fait à signer ces trucs-là parce qu'en fait elle y gagne plus à exporter son industrie. En sacrifiant une part de son agriculture, que en préservant son agriculture qui est entre guillemets beaucoup moins rentable que celle que font des mecs qui ont des troupeaux de 10 000 vaches. Si un troupeau de 10 000 vaches, ça n'existe pas. Ici, tu as des troupeaux de 200 vaches à tout péter, quoi. Et en fait, effectivement, c'est ce qui se passe, c'est que eux, ils sont sacrifiés aujourd'hui, enfin, en tout cas, leur production à eux, Elle est sacrifiée sur l'autel de l'exportation de l'industrie de l'Europe et par contre de racheter à moins cher. Enfin, en fait, ça coûte moins cher d'importer des bœufs qui viennent d'Amérique latine plutôt que de subventionner une agriculture qui coûte trop cher et qu'on essaie de préserver pour pas faire s'effondrer des pans de la société telle qu'elle est constituée. Mais par contre, économiquement, en soi, purement économiquement, c'est rentable. C'est des traités qui sont gérés par des économistes ou par des très très gros capitalistes et des très gros paysans. Et soit dit en passant, les très gros paysans sont très contents parce que eux, qui ont déjà des monopoles européens, sont très contents de pouvoir commencer à exporter à moindre coût un peu partout. Et en plus, pour le coup, dévaloriser complètement, entre guillemets, la qualité du travail. Voilà. En fait, nous, notre ligne transversale, nous, on voudrait parler, par exemple, si on parle du Mercosur, il n'y a pas de problème d'y aller sur le Mercosur. En fait, nous, on voudrait parler des conditions de travail des mecs qui sont là-bas. Et on voudrait parler des conditions de travail de nous. Et on voudrait dire à quel moment est-ce que nos conditions de merde et leurs conditions de merde, en fait, sont reliées par un système d'exploitation et de domination qui est régi par le capitalisme. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est un truc qu'on essaye d'amener, qu'on voudrait amener. Mais en fait, aujourd'hui, là, en l'état, la question sur le Mercosur, à savoir, en fait, on arrête de faire la guerre à nos patrons parce qu'il faut qu'on soit tous ensemble pour défendre la souveraineté de la France par rapport à la souveraineté d'un autre pays, c'est la douille. C'est la même douille que dans toutes les guerres, qu'elles soient économiques ou pas. En fait, on va faire l'union sacrée, on va arrêter de se battre entre nous et de voir les lignes de tension. Et les lignes de tension internes qui sont, en gros, là-bas, la lutte des classes, on revient toujours à ça, et on va arrêter de voir ce truc-là pour dire qu'en fait, à côté, il y a le mec d'Amérique latine, ou le Bosch, ou le machin, ou le bidule, quoi. En fait, c'est tristement répétitif, mais c'est une douille qui est relativement classique.
Parce qu'il y a aussi des questions d'écologie qui sont mises en avant. Mais à partir du moment où ce n'est pas le capitalisme que tu dénonces, ça donne le sentiment que tu es persuadé qu'il peut y avoir un capitalisme vertueux, capitalisme vert, etc. Enfin, comme si les besoins d'expansion du capital pouvaient se brider elles-mêmes au profit d'une production qui serait vertueuse. C'est pas comme ça que fonctionne le capitalisme, c'est complètement illusoire. Et les positions de gauche qui consiste à dire qu'on va laisser survivre les petits paysans parce que ce seraient des producteurs vertueux, elles invisibilisent encore une fois de plus le salariat agricole, c'est-à-dire que l'écologie sans lutte des classes, et c'est du jardinage, là, comme dit l'expression. Il y a des syndicats, par exemple, qui se retrouvent à militer aux côtés de la Confédération paysanne contre la grande industrie parce qu'on soutient les producteurs vertueux contre les méchants grands capitalistes. L'enjeu de l'écologie, c'est quand même à un moment donné de reprendre la main sur la production pour décider collectivement de ce qu'on produit et de comment on le produit. Il n'y a que comme ça que la production pourra être vertueuse et pourra être moins dégueulasse pour la planète et pour l'humanité. Si on veut reprendre la main sur la production, il faut arrêter de flouter complètement les rapports de classe et dire les choses, désigner les choses telles qu'elles sont. Observer les rapports de production, donc qui possède le capital, qui ne le possède pas, qui produit la valeur, c'est les travailleuses et les travailleurs. Et donc, par exemple, même si on ne cautionne pas spécialement le modèle de production qui est mis en place dans la grande industrie agroalimentaire, notre enjeu aujourd'hui, c'est de protéger le salariat donc agricole, mais aussi agro-industriel, en fait. Il faut favoriser la construction d'une conscience de classe pour qu'à terme, ce soit les travailleuses et les travailleurs qui puissent reprendre en main la production, contrôler son organisation, voilà, encore une fois, décider ce qu'on produit, comment on le produit. L'outil industriel en lui-même, il n'est pas forcément, tout n'est pas à foutre à la poubelle. Il y a un moment où il va falloir continuer à satisfaire des besoins qui sont de plus en plus importants. Donc, juste dire, en gros, toute l'industrie, c'est de la merde, ça n'a pas de sens. Enfin, il y a évidemment tout un tas d'organisations productives qu'il faut remettre en question, qu'il faut critiquer. Et ces critiques-là, elles sont tout à fait valables. La question, c'est quelle suite on donne à cette critique et comment on reprend en main cette production. Juste dire... les gros sont des méchants, les petits sont des gentils et on va forcer le capital à revenir à la raison, c'est des vœux pieux qui sont pas, selon nous, très réalistes, quoi. Voilà.
Comment est-ce que vous vous placez au sein de ce monde politique-là, avec qui, par exemple, vous avez l'habitude de travailler, avec qui vous aimeriez bien travailler? Ce serait quoi pour vous les perspectives à mettre en avant et à essayer de faire vivre dans ce monde agricole qui n'est pas dénué de conflictualité?
Bah, nous, on veut travailler avec tous les prolétaires contre les patrons pour la révolution mondiale. Hein,
non, moi, juste pour aller dans la suite de ce que je disais, je pense qu'il y a des connexions à construire de manière indispensable avec l'ensemble du salariat qui participe à la production alimentaire. Donc déjà, rassembler les ouvrières et les ouvriers agricoles, quel que soit le secteur de production, les rapprocher des salariés aussi de l'agro-industrie. Et puis, il y a aussi tout un enjeu aussi autour de la précarité des chômeurs, parce que il y a beaucoup de travailleurs précaires qui peuvent aussi créer du lien. Alors là, on sort un peu de la question de la production agricole, mais on peut créer du lien aussi entre tous les précaires qui sont de plus en plus nombreux dans tous les secteurs, notamment sur tout ce qui concerne le travail saisonnier. Et là, pour prendre de l'ampleur, il va falloir se rapprocher. Donc là, je pense aussi aux camarades des comités chômeurs à la CGT, par exemple, mais on pourrait prendre beaucoup d'exemples. Je vous laisse.
Ouais, on ne va pas faire de village de schtroumpf avec la Confédération paysanne, quoi. C'est pas l'objectif.
Nous, de toute façon, on est un syndicat, on est affilié à la CGT, on est à la FNAB, donc la Fédération nationale de l'agroalimentaire et des forêts, qui est une fédération de la CGT, en gros. Voilà. Du coup, déjà, on essaye un peu de naviguer avec d'autres gens qui sont un petit peu concomitants à nous à l'intérieur de ce truc-là. On essaye de partir de là où on est pour aller jusqu'au plus gros, quoi. C'est-à-dire les ouvriers agricoles, les ouvriers de l'agroalimentaire, puis les ouvriers en général, et puis pas que les ouvriers, en fait, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais le patron agriculture, par exemple, il embauche, il y a 1500 personnes qui travaillent pour l'agriculture aujourd'hui, mais c'est pas forcément toujours des ouvriers agricoles, et pas forcément leurs ouvriers, c'est notre catégorie, mais c'est pas forcément un truc. C'est-à-dire, il y a des profs dans des centres de formation agricole, il y a des secrétaires et des gens pignés dans Pierre, partout dans les chambres d'agriculture ou dans les salariés de banque, par exemple. Du coup, c'est tout un secteur, en fait, qui bouffe sur l'agriculture, et pas uniquement juste des gens qui ont les mains dans la merde, quoi. Ils ont les mains dans une autre forme de merde, quoi. Moi, je pense que c'est embryonnaire, mais nous, par exemple, ici, localement, on a essayé de se rapprocher, par exemple, un petit peu d'autres gens qui sont saisonniers pas du tout dans l'agriculture, en essayant justement, et ça rejoint ce que disait Charlotte sur les trucs de collectif de chômeurs, d'essayer de relier les gens sur la précarité inhérente au travail. Parce qu'en fait, parler de son chômage et parler de ses moments de chômage en dehors du travail, c'est parler de son travail. Parce que de toute façon, le chômage est régi par le travail. Et qu'effectivement, aujourd'hui, ça paraît un truc qui n'est pas dégueulasse, c'est pas con de penser le truc par là, en fait. C'est quoi notre dénominateur commun? C'est notre précarité et c'est notre chômage. Et c'est le fait qu'on n'a pas le chômage, qu'on a du mal à l'avoir. Quand on l'a, on se paye pas trois cacahuètes, quoi. Voilà, c'est un peu tous les angles qu'on a. Après, déjà, en fait, il y a tellement de boulot à faire, ne serait-ce que chez les bergers. Alors, c'est-à-dire que déjà, rien qu'au niveau juste des gardiens de troupeaux, le taf, il est dingue. On met beaucoup de syndiqués en France. Hein. Il y a plus d'une centaine, entre 100 et 150 personnes, je pense, en France. Alors que ça fait, grosso modo, 4 ans que le truc, il existe vraiment. Et bon, et sur le nombre de bergers ou de vachers qui existent en France, c'est une très grosse proportion, en fait, en réalité. C'est de l'ordre de 10%, j'en sais rien, quoi. Et du coup, rien que là, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail qui reste un peu inhérent juste à ce truc de gardien de troupeau, et qu'on a toutes les envies du monde de la révolution mondiale prolétarienne et tout, mais on part de là où on est. Et après, on a nos leviers aussi, ça reste, il faut le dire, même si on a envie d'être très offensif, c'est aussi beaucoup défensif, et aujourd'hui, il y a des leviers qui sont intéressants. Se mettre en grève, c'est assez compliqué dans notre secteur. On aimerait bien, c'est un peu un rêve absolu qu'on puisse avoir une grève générale de bergers. Mais par exemple, il y a d'autres choses comme par exemple les prud'hommes ou ce genre de choses. Réussir à envoyer des campagnes entières de prud'hommes pour vraiment commencer à foutre la trouille à tout le monde, leur dire voilà, en fait, on se réapproprie le droit du travail. Les textes, en fait, finalement, on les connaît. Vous pensiez qu'on ne les connaissait pas, mais en fait, on les connaît. Et toujours une fois, casser en fait cette espèce de rapport de subordination un peu symbolique et un peu. Où en fait on a de l'empathie pour les gens qui nous exploitent, commencer à comprendre qu'ils nous exploitent pour pouvoir commencer à les attaquer au prud'homme déjà et commencer à appuyer tous ces trucs-là, ce qui est un truc qui est en train de se faire et qui existe de plus en plus. Mais à travers ces trucs un petit peu de défense des salariés agricoles et du coup des bergers et des vachers, continuer un petit peu fédérer, quoi. Step by step, quoi, comme disent les connards qui font des anglicismes. Ouais.
Mais alors, après, ce qui est intéressant dans votre discours, c'est que vous l'articulez autour de la place que vous avez au sein des rapports de production et non pas spécifiquement en fonction du domaine de production.
Oui, bien sûr, bah, c'est ce qui découle complètement de notre lecture de la situation à travers, ouais, à travers la question de la lutte des classes, quoi. C'est que de toute façon, le travail, aujourd'hui, on peut être dans des luttes défensives et essayer de se protéger les uns les autres, les unes les autres, au maximum, en étant solidaire, en essayant de peser dans le rapport de force et de signifier à nos employeurs qu'ils n'ont pas tous les droits en fait sur nos corps et sur nos vies. Ça, c'est une chose, mais va arriver un moment, enfin en fait il est déjà arrivé, mais il faudra qu'on ait constitué des forces suffisantes où on ne pourra pas se continuer à se contenter de dresser le bouclier quand il faut dresser le bouclier. Il y a un moment où il va falloir cibler ceux qui nous envoient des tombereaux de merde sur la gueule. Et donc, il va falloir remonter à la racine. Et remonter à la racine, ça demande des travailleuses et des travailleurs qui sont soudés, qui sont unis, qui sont conscients de leur place, de leur rôle, du pouvoir qu'ils représentent, en fait. Parce que en vérité, c'est quand même nous, qui, les travailleuses et les travailleurs, qui produisons tout ce qui nous nourrit, tout ce qui nous permet de nous vêtir, etc. Donc, on a cette force, on a cette puissance. Maintenant, il nous appartient de signifier à tous nos comparses, nos compères, que cette force, elle existe, qu'on peut la déployer et que le travail nous appartient, en fait, et que la production nous appartient. Et le jour où on arrive à transformer ça, je pense que ça fera un peu de... Ça foutra vraiment le bordel. Et on pourrait espérer construire complètement autre chose.
Et réenchanter, alors j'aime pas réenchanter, c'est encore un mot de connard, mais réenchanter... Ce qu'on fait, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et en fait, on veut le faire mieux. Et on veut le faire bien. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Les gens aiment pas mal faire les choses. Et du coup, de se dire, en fait, on a le droit de, à la fois, pouvoir aimer ce qu'on fait et en même temps critiquer les gens qui nous font faire ce travail. Parce qu'en fait, ils nous le font faire d'une manière qu'on n'aime pas. Et que c'est un petit peu ce truc aussi de recommencer à aimer ce qu'on fait, en fait, quoi. Et d'arrêter d'être blasé. Et ça, c'est un truc. Et je pense que les gens qui viennent dans le syndicat, aujourd'hui, c'est un petit peu ça qui se passe. En tout cas, toutes les personnes, je pense qu'il y a un truc basique, c'est que les gens, ils ont envie de continuer à aimer ce boulot, mais ils n'ont pas envie de l'aimer à travers la validation de la personne qui leur dit comment il faut qu'ils fassent ce boulot et qui possède le moyen de production. Mais plutôt notre validation collective à nous, entre nous, de savoir, de parler du fait qu'on connaît vraiment ce boulot. Et ça, c'est un truc important, se réapproprier le travail, pas que dans comment on le fait, quoi, mais comment on le pense.
Le fait de centrer nos réflexions sur les rapports de classe, sur la lutte des classes et tout ce qu'elle peut générer aussi en termes de perspective, ça ne nous empêche pas, bien sûr, de tenir compte de bien d'autres rapports de domination qui font aussi partie de notre vie quotidienne et de notre rapport au travail. Et là, je pense, par exemple, à tous les biais et toutes les violences racistes, aux violences sexistes et sexuelles, aux violences que subissent toutes les personnes qui sont considérées comme trop faibles. Donc, il y a aussi toutes ces questions-là sur lesquels on a du travail, donc autant dire qu'on a quand même beaucoup de travail. Centrer notre regard sur les rapports de production, ça n'efface pas, bien évidemment, tout un tas de luttes qu'il faut mener aussi en même temps, quoi.
Si on regarde bien le discours qui a été porté véritablement dans les médias, finalement, au-delà d'un bien produire, qui est finalement une notion un peu floue, dans laquelle on ne sait pas quelles vont être, par exemple, les conditions du salarié agricole qui va produire, c'est aussi le patrimoine de la France, son agriculture. Et il y avait un espèce de... Ouais, un petit tapis, une petite atmosphère de cet ordre-là aussi, un peu patriotique.
En fait, cette polémique-là autour du Mercosur, finalement, les paysans vont en sortir d'une certaine manière, même s'ils disent qu'ils sont les victimes absolues de quelque chose, là. Ils vont en sortir grandis totalement comme les défenseurs de la souveraineté du terroir et de la souveraineté de la France en général. En plus, il y a une imposture de base qui est terrible, parce qu'en fait, ils ont absolument tout à gagner à ce qui se passe. C'est-à-dire que la FNSEA, par exemple, qui sont les grands patrons et les grands régisseurs du mouvement, première option, le Mercosur ne passe pas. Bon, a priori, ça va passer, hein, de toute façon, c'est quand même parti pour ça. Mais si le truc ne passait pas, les agriculteurs seront les grands défenseurs, les paysans, et notamment les paysans de la FNSEA, pour le coup, enfin les agriculteurs de la FNSEA, les grands négociateurs auraient été, entre guillemets, les défenseurs, quoi, le bouclier de la France par rapport aux puissances étrangères et tout. Et du coup, en fait, il y aurait une assise qui sera encore plus forte, c'est-à-dire que encore moins de remise en question de la paysannerie et de tous les trucs possibles qu'on a énoncés juste avant, parce que voilà, ils auront tout gagné. Si le Mercosur passe, En fait, ça va pas passer comme ça, le Mercosur. Il va quand même y avoir, il y a des forces vives, c'est beaucoup chez tous les milieux d'agriculteurs, là, qui vont quand même essayer de dire oui, ça passe, mais à quelles conditions? Et là, à un moment, et là, on rentre dans ce qu'ils savent très bien faire, c'est la négociation. En fait, ils vont revenir en disant ah, bah, on n'a rien pu faire, le truc a été signé, mais du coup, il a été signé, mais en contrepartie, par contre, ce qu'on a réussi à avoir, c'est une dérégulation supplémentaire sur les produits phytosanitaires, sur les normes environnementales, sur les normes sociales et tout. Et dans tous les cas, en fait, il y a quelque chose de gagné. Il n'y a aucune option sortante de cette négociation du Mercosur où les gros agriculteurs ne s'en sortent pas. Toutes les options sont des options gagnantes.
Que du coup, pour faire passer l'accord, le gouvernement et les lobbies de l'agro-industrie disent bah allez, on le fait passer, et puis en contrepartie, vous pourrez faire bosser des gens pour 400 balles par mois, par exemple. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui peut éventuellement sembler inimaginable si les travailleuses et travailleurs agricoles se montrent pas forts et résistants en la matière. Donc, ça pourrait très bien passer sans forcément être si grave que ça d'un point de vue économique, même si je crois que globalement, c'est quand même pas souhaitable. Hein. Mais voilà, les exploitants agricoles pourraient, entre guillemets, trouver cette parade-là. Et je voulais juste redire aussi, on a vu beaucoup sur les ronds-points le truc notre fin sera votre fin. Donc, effectivement, en termes d'image, il y a ce truc où les agriculteurs aiment à rappeler que c'est eux qui nous nourrissent. En soi, c'est l'agriculture qui produit ce qu'on mange, effectivement. Par contre, c'est en plus, ça, c'est des militants de la FNSEA, pour le coup, qui ont affiché ce genre de truc. Et c'est vraiment la preuve d'une méconnaissance totale du fonctionnement aujourd'hui du capitalisme à l'ère mondialisé. C'est que, en fait, dans l'absolu, on peut très bien produire un tas de trucs de manière ultra-industrialisée aux quatre coins du globe et ne pas du tout crever de faim, en fait. C'est-à-dire que leur faim ne sera pas forcément notre faim. Par contre, ce sera un désastre écologique et on va bouffer de la merde et ce sera désastreux pour beaucoup de travailleuses et de travailleurs. Mais par contre, ce slogan-là, il est d'une naïveté terrible, quoi. Et en plus, des gens issus du syndicat qui défend l'ultralibéralisme et les échanges. Enfin, en fait, jusqu'à présent, les traités de libre-échange, quand ça les arrangeait eux, ils n'avaient absolument rien contre, quoi. Donc, c'est quand même assez délirant, quoi.
J'ai trouvé une phrase qui illustre hyper bien ce truc-là, qui est très facile et captée, justement bien écrite. Il dit « La ruse de la FNSEA est de maintenir sous le vocable unitaire des intérêts antagonistes du monde agricole alors qu'elle ne représente que les dominants et les patrons de l'agriculture. » Voilà. Plus la FNSEA, en fait, elle se base sur des gens qui, effectivement, sont, entre guillemets, en voie de précarisation ou en voie de prolétarisation. Et ça, c'est vrai. Il y a un peu ce truc-là aussi, à l'intérieur du mouvement des agriculteurs, c'est-à-dire que les gens sont en voie de prolétarisation, mais leur réflexe, en fait, le réflexe des gens qui se prolétarisent à l'intérieur des petits patrons agricoles et qui adhèrent à la FNSEA aussi, hein, en fait, le réflexe, c'est de réussir à redevenir un peu des gros pour ne jamais être des petits. La FNSEA, en fait, elle essaie de structurer entre des bases qui sont très énervées pour des raisons qui ne sont pas du tout celles pour lesquelles les cadres dirigeants de la FNSEA se battent, quoi. Ils sont en bourse, quoi, ces gens-là. Donc, c'est pas du tout les mêmes trucs. Par contre, ils structurent complètement des antagonismes à l'intérieur même de leur organisation. Et du coup, bon, vraiment quelque chose pour ramener à cette espèce de naïveté de dire votre fin, pour ramener à ce truc de dire votre fin sera notre fin. Bon, bah, en fait, non, c'est pas vrai. En fait, les gros, ils vont continuer à exister, effectivement. Et en fait, la grosse connerie, c'est que l'hégémonie politique et culturelle, en fait, fait croire à plein de petits qu'en fait, ils pourraient recommencer à être des gros ou être encore plus des plus gros, alors qu'en fait, ils vont se faire douiller comme les autres. Par contre, en attendant, ils restent du mauvais côté de la barrière, quoi. Et que du coup, ces mecs-là, nous, le jour où ils nous emboîtent le pas avec nous, notre rêve à nous, c'est de dire, nous, on est un syndicat d'ouvriers, maintenant, nous, on lead le truc, et vous, vous emboîtez pas, nous, on a compris comment on allait gérer la production, tu vois, genre a priori, et que du coup, maintenant, arrêtez de croire aux conneries qui vous racontent les mecs de la FNSEA, les gros, là, venez avec nous, coulez-nous un bout de vos parcelles, un bout de vos trucs, on collectivise nos machins, et puis on y va ensemble, quoi. Sauf qu'en fait, non, leur réflexe à eux, il est aussi idéologique, dans une espèce d'opposition aussi ruralité-ville. Ils ne voudront jamais être du côté des ouvriers gauchistes, quoi.
Il y a quand même une donnée importante dont il faut parler, c'est que tout le patronat agricole français n'a pas attendu le Mercosur pour agir sur les normes. En fait, la destruction des normes sociales et environnementales en agriculture, mais c'est un long travail qui a démarré dans les années 60. Je ne sais pas, si on prend 99, c'est la première fois qu'on invente le terme de travailleur occasionnel en agriculture. Donc, en gros, c'était quelque chose qui te permettait d'avoir des exonérations de charges, enfin de cotisations patronales sur l'embauche d'un travailleur occasionnel. Et quelques années plus tard, on a créé le TESA. Pareil, un nouveau contrat de travail qui permet d'embaucher des salariés en n'étant pas contraints. Ça, c'est le vocabulaire des agriculteurs eux-mêmes, hein, n'étant pas contraints de subir toutes ces normes sociales infâmes qui t'obligent, par exemple, à signer un contrat de travail normal, quoi. Le patronat agricole, il bénéficie, par rapport à tout l'autre patronat des autres secteurs économiques du pays, le patronat agricole, il bénéficie déjà, depuis longtemps, d'un émiettement des normes sociales et les normes environnementales, hein. L'utilisation des pesticides, c'est la même chose. Donc c'est très curieux de les entendre parler de normes, parce qu'en fait, en France, les normes, elles sont grignotées depuis très longtemps. Et là, je reviens sur la Confédération paysanne qui parle de ça aussi, mais j'aimerais bien les entendre se révolter contre, justement, l'acceptation de ce type de privilège. Et aujourd'hui, un employeur de la Confédération paysanne, il se satisfait, mais tranquillement, de l'émiettement des normes sociales dans le monde agricole.
Justement, pendant que tout ce bruit était fait sur la question du Mercosur, d'autres enjeux étaient mis en silence, en sourdine, et des enjeux qui, en fait, là, pour le coup, vous concernent plus directement.
Oui, alors en fait, on a réussi à engager des commissions, enfin des négociations nationales autour des conditions de travail des gardiennes et des gardiens de troupeaux. Il faut savoir qu'il y a une convention collective nationale qui a été signée en 2020. La signature de cette convention collective nationale, elle a été conditionnée au fait que les textes qui concernent les gardiennes et les gardiens de troupeaux en territoire, enfin, et d'ailleurs l'ensemble des ouvrières et des ouvriers agricoles sur les territoires, parce qu'il y a des textes qui sont départementaux, la condition donc c'était de ne pas remettre en question les avantages obtenus par ces textes départementaux. Donc la signature de la convention nationale a relancé d'une part on appelle ça une mise en conformité, donc des textes départementaux pour, en gros, réécrire un texte qui tienne compte à la fois de ce qu'il y a de plus favorable aujourd'hui dans la convention nationale qui a été signée et à la fois des particularités qui avaient été arrachées, obtenues par la lutte dans les départements. Donc il y avait tout ça. Donc on a des négociations en territoire. Et comme, à travers ces négociations en territoire, on a réussi à se mobiliser quand même de manière assez significative, on a réussi à obtenir aussi en plus l'ouverture de négociations à l'échelle cette fois nationale pour encadrer en fait les conditions de travail de toutes les gardiennes et les gardiens de troupeaux. En fait, on est sur les deux terrains à la fois. Parce qu'en attendant d'obtenir un texte national qui soit intéressant pour tout le monde, il faut qu'on continue à défendre les... entre guillemets, avantages, enfin, en tout cas les conquis qu'on avait réussi à arracher en territoire. Voilà. Donc ces négociations, elles ont lieu en même temps. Il y a des dates sur les territoires et il y a des dates au national. Depuis la mobilisation des agriculteurs, quasiment à chaque fois qu'on est en dialogue avec la FNSEA, qui pour le coup est notre seul interlocuteur dans ces négociations, puisque c'est le syndicat patronal majoritaire, déjà, la discussion démarre tout le temps, mais quasiment tout le temps, hein, c'est pas facile pour nous en ce moment. Voilà, donc ça chouine. Et du coup, partant de là, tous les prétextes sont bons pour annuler les négociations, les reporter, nous dire un coup en visio, nous proposer des négociations qui auraient lieu exclusivement en visio, alors qu'à quel moment ça peut être satisfaisant de négocier sur des enjeux aussi importants en visio, avec beaucoup d'interlocuteurs à la fois. Déjà que la prise de parole n'est pas toujours simple quand on est en présence les uns des autres. Donc il y a tout un tas de... Voilà, c'est... En fait, la mobilisation des agriculteurs est instrumentalisée pour déjà mettre en scène la fragilité, la faiblesse des personnes qui nous exploitent, et d'autre part, bien nous faire comprendre que nos conditions de travail ne sont pas prioritaires et qu'on fait bien notre maximum, on fait tout ce qu'on peut, mais on est débordé, on ne peut pas faire autrement. Et donc, aujourd'hui, il y a quand même une conséquence concrète sur les négociations qui ont été ouvertes, qui sont par ailleurs déjà très tendues, hein, rien que sur le début du texte au niveau national, rien que sur la manière dont on s'appelle gardienne et gardien de troupeau, sur les périodes d'activité qui sont couvertes, c'est-à-dire que nous, on estime que le travail de gardienne et de gardien de troupeau se déroule aussi bien en montagne l'été qu'en plaine ou en colline l'hiver, c'est le même travail, avec des dispositions qui doivent être spécifiques dans le cas où on est en montagne, parce qu'il y a bien sûr des particularités, mais en fait, quand on travaille en colline, on dort aussi en caravane, on est aussi là 7 jours sur 7. Enfin, voilà, ce n'est pas des conditions de travail qui sont beaucoup plus favorables, donc déjà rien que là-dessus, on n'est pas d'accord. Et en fait, on se rend bien compte dans les discussions qu'on arrive...
Radio Primitive. La radio qui fait grrrr.